السلام عليكم ورحمة الله. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'exaucer nos demandes et qu'il nous guide sur le bon chemin. Mes frères, comme nous avons l'habitude toujours, le matin, on est toujours censé réfléchir au verset d'Allah subhanahu wa ta'ala pour connaître le sens du Coran et pour connaître la sagesse derrière certains versets de notre livre sacré qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse en fonction de ce livre, de son livre sacré. Il y a dans les versets qu'on vient de réciter, il y a deux prophètes de Bani Israël qui étaient mentionnés. Alors c'était David qui est le père et Salomon c'est le fils, comme on l'appelle Daoud et Sulayman en arabe. Le prophète, alayhi salatu wassalam, David a été donné la science, il avait le zabour, il récitait le zabour avec une voix, une belle voix. Et lorsqu'il récitait le zabour, il y avait les montagnes et les oiseaux qui avaient répété. Et il y avait l'écho dans les montagnes lorsqu'il récitait un zabour. Et c'est pour cela, il était donné aussi par Allah subhanahu wa ta'ala une autre chose. Allah subhanahu wa ta'ala avait fléchi le fer pour lui. Et il avait même avec sa main, alors il faisait de barres de fer, des choses comme si c'était de cordes. Alors il pouvait les plier, fléchir comme il voulait. Et ça, c'est une force que lui avait été donnée par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala avait loué l'adoration de David. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, dans un hadith, il dit que le meilleur jeûne est celui de David. Siyam Daoud, le jeûne de David. Car il jeûnait un jour et il avait mangé le jour d'après. Un jour il jeûne, un jour il rompt le jeûne. Et ça, c'est le meilleur genre alors de jeûne. On ne fait pas plus, c'est-à-dire la moitié de sa vie, elle passa en jeûnant, et l'autre moitié, alors on mange la moitié de l'année. Et aussi la prière. Alors, elle dormait la nuit, elle avait divisé la nuit pour la prière. Il y a 6 parties de la nuit. Alors, la moitié, c'est pour dormir. Alors, 3/16. Et après, elle faisait 2/16 la prière. Et avant le fajr, elle dormait le dernier 16e. Et ça, c'est la meilleure prière. Alors, le meilleur jeûne et la meilleure prière, ce sont ceux de David, alayhi salam. Alors, ces prophètes avaient été donnés beaucoup de sagesse et de force. Ils sont très proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils craignaient Allah car ils étaient donnés la révélation. Et bien sûr, lorsqu'on a la révélation, on est plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, notre prophète Muhammad, il avait jeûné jusqu'à ce qu'on dise, il ne va pas manger. Et c'est pour cela qu'on doit toujours faire les adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala en fonction des modalités qui nous avaient été citées dans le Coran. Et ça, c'était alors toute adoration que David faisait, et il faisait partie de cette révélation. Même on avait posé la question au prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, pourquoi il fait beaucoup d'adoration. Il a dit, même si c'était le cas, est-ce que je ne dois pas être un serviteur d'Allah qui le remercie en permanence? Et c'est pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant, en s'adressant à David, il a dit, « «E'malou», », alors, « «que vous fassiez». ». Et ça, c'est l'impératif qui signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait ordonné à ses prophètes de faire de bonnes œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala avait donné la science. Alors, à ces prophètes-là, la science, et ils ont dit, alors, merci à Allah qui nous avait qu'il nous avait préférés par rapport aux autres. Alors qu'il nous avait préférés à beaucoup d'autres parmi ses serviteurs. Et ça, grâce à la science. Alors on voit que la science, c'est la vraie bénédiction. Quand on est la science, on est préféré aux autres. S'il y a de bien sans science, ou s'il y a la famille et la position sociale sans science, tout cela ne sert à rien. Car la science qui fait du serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala profiter des biens et de toutes choses comme il faut. Regardez l'exemple qui nous était donné par le prophète alayhi salatu wa sallam. Il a dit, cette vie de ces bas mondes relève de quatre genres d'hommes. Alors celui qui t'est donné l'argent et la science, ça c'est le premier genre d'homme. Et c'est pour cela qu'il craint Allah grâce à sa science. Dans ses biens, alors c'est la science qui le guide sur le bon chemin. Et ça, c'est la meilleure position. Et l'autre, celui qui est donné de l'argent, mais il n'était pas donné la science. Dans ce cas-là, il ne sait pas comment gérer alors ses biens, car il n'a pas la science. Et c'est pour cela, il est moitié-moitié, il a les biens, mais il n'a pas la science. Mais, c'est-à-dire, c'est celui qui est en perdition, car il n'a pas la science. Et c'est pour cela, la science, c'est toujours le point de repère de préférence entre les êtres humains. Alors, et ceux qui étaient donnés la science, alors c'est celui qui est le meilleur. Au moins, on doit apprendre ce qu'il doit faire par rapport à son Dieu. Et ça, c'est le minimum de ce qu'on peut faire. Elle doit savoir au moins comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, comment faire la prière, comment faire le pèlerinage, comment s'acquitter de le monde légal, comment il jeûne, tout cela. Ça, c'est nécessaire. Et ça, c'est le minimum des choses. Et si elle ne sait pas, elle doit poser des questions à Allah subhanahu wa ta'ala, que vous posiez les questions alors aux scientifiques ou aux ulama, si elles ne savent pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant de Salomon, il a dit qu'il avait hérité David. Alors dans quel sens? C'est-à-dire sur le plan de la science. Allah subhanahu wa ta'ala avait donné une parabole alors de David et de Sulaïman. Nous avons fait comprendre à Salomon, aux autres, nous avons donné la sagesse. Alors à David et à Salomon surtout. Et comme nous savons, les prophètes, comme on a parlé l'autre jour, alors il n'y a pas d'héritage dans le sens propre du mot. C'est la science qui est héritée par ceux qui les suivent. Et c'est pour cela, c'est la science, lorsque Zacharie avait formulé la prière à son Dieu, et il a parlé d'un fils après lui qui va l'hériter. Mais hériter la science, ce ne sont pas les biens. Car les biens des prophètes ne seront jamais hérités, ils seront distribués, alors pour qu'ils soient des aumônes ou distribués dans la société. Et là, Sulaïman, il était donné aussi la science. Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donné la science de comprendre le langage des oiseaux. Il a dit, ô Dieu, que tu me donnes un royaume, quelque chose que les autres n'ont pas. Alors d'abord, il s'est adressé à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui donne les biens et qui donne toutes choses. Et c'est celui qui enlève tout cela, c'est Allah seul. C'est pour cela, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui gère tout cela. Il ne faut jamais s'adresser à quelqu'un ou on ne doit pas formuler la prière pour arriver à Allah, au moins une autre chose. Tu donnes les biens pour celui qui tu veux et tu enlèves les biens de celui qui tu veux. Alors c'est toi qui lève la position de certains tandis qu'ils rabaissent des autres, car tu es l'omniscient, le tout omniscient. Alors nous voyons les biens, ils appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il a dit, ô Dieu, alors que tu me donnes des biens qui ne seront jamais, qui ne seront donnés à quelqu'un après moi. D'abord, il était donné, c'est-à-dire la science du vent. Il savait exactement, il peut ordonner au vent ce qu'il veut. Alors il peut alors ordonner le vent de partir ou de prendre quelqu'un, même pendant des mois. Alors le vent avait même apporté les gens chez lui. S'il veut que quelqu'un parte, elle part avec le vent et après elle regagne le pays de nouveau avec ce vent-là. C'est seulement le seul qui avait ça, c'est-à-dire la capacité d'ordonner le vent, de faire ce qu'il veut. Et deuxième chose, ce sont les djinns, alors les créatures invisibles. Il avait le pouvoir de les ordonner. Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donné aussi la capacité d'ordonner aux djinns ce qu'il veut. Alors même ils ont fait des choses pour lui, les grands casseroles, les grands lieux, la construction des maisons, tout cela était fait par les djinns. Alors il avait parlé avec les oiseaux aussi, c'est-à-dire le langage des oiseaux. Ils ont un langage que personne ne connaît en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Waddawab, c'est-à-dire tout ce qu'il y a d'animaux, il connaissait le langage. Alors, seulement en remerciant son Dieu, il a dit, je t'ai donné la science de langage des oiseaux et il nous a donné toutes choses. Alors, même, il dit, une fois, Allah subhanahu wa ta'ala avait rassemblé toute l'armée de Solomon. Il y avait les djinns, les créatures invisibles, les oiseaux, les animaux, et les êtres humains, bien sûr. Alors, il avait un royaume entier. Et parmi les animaux qui étaient rassemblés aussi, alors pas tous ces genres de créatures qui existaient sur Terre, mais c'est-à-dire une spécimen de chaque genre de ces animaux qui existent. Alors, il y a certains de ces créatures invisibles, al-djinn, mais pas tous les djinns. Et les oiseaux, mais pas tous les oiseaux du monde, mais le genre de ces oiseaux était là. Il y avait alors comme des échantillons de chaque groupe d'oiseaux. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'on marchait, que Solomon avait marché avec son armée, jusqu'à ce qu'il soit dans une vallée où il y avait les fourmis. Et cette vallée-là, il était pleine de fourmis. Sulayman, elle s'est dirigée avec l'armée et lorsqu'elle se précipitait vers le lieu, un fourmi, elle dit, ou une fourmi féminine, elle a dit, « Oh vous les fourmis, ah, regardez maintenant, il a averti ses collègues, ou ses compagnons. » Sulayman, il avait entendu le fourmi. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui avait donné la science, le langage des fourmis. Alors, la fourmi, il était donné. Il savait que Sulayman arrivait. Il ne faut pas être étonné que Solomon l'avait entendu, car il était donné le langage de tous les animaux du monde. Allah subhanahu wa ta'ala avait donné à chaque créature les facultés et les avait guidées. Alors cette fourmi-là, c'est une alors femelle, elle a dit à ses collègues, alors entrez dans vos trous car Sulayman et son armée, ils vont vous écraser. Cette fourmi, il voulait avertir les autres parce qu'elle n'était pas une fourmi alors qui est égoïste, elle était plutôt altruiste. Il voulait que si ses collègues soient sauvés de Solomon et de son armée. Il n'a pas accepté cette fourmi-là, alors de fuir le lieu tout seul, mais il voulait que les autres aussi partent dans les trous pour qu'il ne soit pas écrasé par Solomon et son armée. Il a appelé tout le monde alors. Et ce qui est étonnant, qu'en parole brève, il avait donné beaucoup de sens pour que les autres soient avertis. Il avait pardonné même cette fourmille, et il avait averti et elle s'est excusée. Alors les trois choses que la fourmi avait fait, tout cela avec une ligne. Il a dit, Yuhannam, vous les fourmis, il avait ordonné, alors entrez dans vos trous. Il a averti, alors faites attention que Sulaiman ne vous écrase pas et son armée. Et elle s'est excusée auprès de Sulaiman, elle ne veut pas vous écraser, mais peut-être on ne vous voit pas comme vous êtes des créatures bénignes et petites, et peut-être on peut vous écraser. Alors vous voyez, quatre choses elle avait fait dans quelques paroles qui ne font même pas une ligne entière. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous amène ses récits dans son livre, c'est toujours pour avoir des leçons, pour les leçons qu'on peut tirer à tout ce qu'on lit dans ces récits des messagers d'Allah. Regardez par exemple, il avertit les autres fourmis. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit et nous incite à être des altruistes, car il dit, aucun de vous ne sera un bon musulman sans aimer pour les autres, pour ses frères, ceux qu'il aime pour soi-même. Alors vous voyez, la fourmi, elle n'a pas fui le lieu toute seule, mais elle avertit les autres pour qu'ils ne soient pas écrasés. Elle voulait le bien pour les autres fourmis, exactement comme pour elle-même. Alors ça, c'est la première leçon. Ce sont les choses qui sont très importantes en islam. La récompense en islam, elle est basée sur cette synergie avec l'autre et avec les autres collègues et créatures, parce que tu ne vis pas pour toi-même. Tu vis dans une société, c'est une... ce sont des tissus qui vivent ensemble, et c'est pour cela que le musulman doit aimer le bien pour les autres comme il l'aime pour soi-même. Il doit être altruiste. Ça, c'est... Nous avons vu des images qui étaient vraiment des exemples à calquer. Même dans les conditions les plus difficiles, on voit... Alors, on voit que l'islam nous incite à faire cela. Alors, nous devons nous rappeler dans la bataille de Yarmouk, alors quelqu'un qui était un blessé, qui voulait boire, alors il lui avait apporté de l'eau, mais en même temps, il avait entendu le gémissement d'un autre collègue qui était allongé par terre, presque mort. Il n'avait pas bu, il a donné ça à l'autre. Lorsqu'il voulait, cet homme-là qui voulait les sauver, il était là à la tête du deuxième homme, il y avait un troisième qui était en train de gémir aussi. Alors, il est allé au troisième pour qu'il boive, alors, mais il était déjà mort. Il a regagné le deuxième pour lui donner de l'eau, mais il était déjà mort. Alors, et le troisième aussi, ça dans la bataille de Yarmouk, et là, il y avait le trois. Regardez, même ils sont en train de mourir. Et chacun de ces trois blessés, alors il voulait que le soi vive avant lui. C'est ça l'altruisme que l'on donnait l'exemple. Mais celui qui est égoïste, il veut toujours se sauver lui-même. Il va même vivre toute sa vie pour soi-même et il ne peut pas être utile pour les autres. Alors on revient maintenant au récit de Salomon. Lorsqu'il a entendu la fourmi parler, il avait souri de ce qu'il avait dit. Alors cette créature bénigne que ne peut pas voir même avec l'œil nu, alors elle dit ces paroles-là et il avertit ses collègues. Lorsqu'il a entendu ces phrases-là, de cette fourmi, il était étonné, stupéfait, alors de l'intelligence de cette fourmi, de cet avertissement qu'il avait lancé aux autres. Il a dit, « Oh Dieu, que tu me donnes la capacité de te remercier pour toutes les bénédictions que tu m'avais données. » Il était étonné vraiment de l'intelligence de cette fourmi. Regardez, dès qu'il y a quelque chose, une bénédiction d'Allah, on doit toujours remercier Allah. On doit invoquer les vertus de ces bénédictions d'Allah. Elle dit, oh Dieu, si tu me donnes ces bénédictions, que tu me donnes autre chose. alors la capacité de te remercier. Et ça, c'est une capacité, c'est une faculté qui n'est pas facile. Il faut avoir l'intelligence pour savoir comment remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala te guide sur le bon chemin, pour remercier Allah, c'est une autre bénédiction d'être capable de remercier Allah comme il faut et quand il faut. Parmi les gens, il y a les gens qui ont beaucoup de bénédictions, mais ils ne remercient pas Allah. Et il y a certains qui le remercient comme il faut. Et c'est pour cela, si nous étudions ce que tu es là, on ne peut pas compter les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il y a, si tu remercies Allah pour une bénédiction, mais cette bénédiction, si tu remercies Allah, alors c'est une autre bénédiction d'avoir la capacité de remercier. Allah dit dans le Coran, si vous voulez invoquer les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous ne pouvez même pas les compter. Alors si tu veux remercier Allah pour toutes ces bénédictions, tu ne vas pas finir. Ce sera une chaîne illimitée alors de remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le corps que tu sois parmi ceux qui remercient Allah. Même Allah avait loué Noé parce qu'il était parmi les gens qui remerciaient Allah. La bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle peut venir aussi des parents, si tu es sur le droit chemin. Comme Salomon, il avait toutes ses bénédictions, ça c'était la continuation de son père. La bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'une certaine personne, ça peut être son fils ou son père. Elle remerciait Allah pour cette bénédiction. Elle a dit, je te remercie pour les bénédictions que tu m'avais données à moi-même et à mes parents. Et tout ce qu'il a de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala sera accrédité sur le compte de son père le dernier jour, car il était éduqué par les parents. Si les parents ne faisaient pas la prière, n'avaient pas remercié Allah, ils n'auraient pas fait de même. Et de faire de bien, et que tu me fasses entrer le paradis, et que je sois au nombre des gens qui font les bonnes œuvres. Et c'est pour cela, lorsqu'un messager d'Allah ou un prophète, regardez, un prophète demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'être au nombre de ceux qui font les bonnes œuvres. Alors ceux qui font les bonnes œuvres, il devient un but pour quelqu'un qui avait reçu la révélation. Et c'est pour cela, ça signifie l'importance de celui qui fait les bonnes œuvres sans la révélation. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous les avons entrés dans notre, dans le sens figuré de mot, dans notre miséricorde. Alors, pour qu'il soit au nombre de ceux-ci qui font les bonnes œuvres et le paradis qui était préparé par Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit, j'ai préparé le paradis pour mes serviteurs qui font les bonnes œuvres. Alors, le croyant, il y a des millions de musulmans qui font la prière pour celui qui est un vrai croyant, celui qui fait les bonnes œuvres. Après Tashahhud, Assalamu alayna wa ala ibadallah al-salihin. Que la paix soit sur nous et sur les serviteurs qui font les bonnes œuvres. Ça, c'est ce que tu as et moi, nous répétons dans chaque prière dans Tashahhud à la fin. Là-dessus, le verset qui vient, alors, il avait justement fouillé, c'est-à-dire les troupes qui étaient là. Et parmi les troupes, il y avait le groupe des oiseaux pour savoir ce qui était absent, ce qui était présent. Pas tous les oiseaux, mais peut-être de chaque genre, comme on a dit alors des oiseaux, il y avait peut-être un seul. Et lorsqu'il avait alors inspecté les troupes, il a dit, il est où Lup? C'est-à-dire, Lup, l'Hudhud en arabe, ça signifie, il n'a pas dit, je n'ai pas vu un, mais il a dit Lup, alors avec l'article de définition, c'est-à-dire, il le connaissait. Alors, comment il n'était pas là dans ce rassemblement, toute l'armée est là. Et pourquoi il est absent? Il est là ou il est absent? Alors en inspectant les troupes, il a constaté l'absence de Lube. De Lube qu'il avait connu déjà. Si Lube avait demandé la permission à Salomon, Salomon n'aurait pas posé la question sur lui. Exactement comme si tu as un congé de ton, par exemple, chef hiérarchique. Alors Salomon, il a dit pourquoi il est absent, je vais le torturer. La ou'adhibannahu, c'est-à-dire je vais le châtier. Ça c'est vrai, alors il faut avoir de la discipline dans tout travail. Et c'est pour cela qu'il l'avait averti. Je vais le torturer sévèrement, ou je vais l'égorger, ou tuer. Ou il m'appartera alors l'épreuve qu'il devait s'absenter. Les ulamas, les exégètes qui expliquent le Coran. Les gens, il a dit le mot torturer, il est susceptible d'être interprété de plusieurs façons. Alors il est susceptible, certains exégètes, ils disent qu'il sera avec un peuple qu'il ne connaît pas, ils ne connaissent pas sa valeur. La Bahanahu, je vais le tuer. Mais c'est-à-dire s'il y a une raison justifiée pour son absence, après un certain temps, Luc est revenu de nouveau. Ce petit oiseau, le redoute, alors est revenu et il s'est présenté auprès de Salomon. Et qu'est-ce qu'il dit, ce petit oiseau? Regardez. Elle dit, je t'ai donné ce que tu n'étais pas donné, dit à Salomon. Même s'il était devant Salomon, elle le dit, elle dit la vérité. Alors elle dit, j'ai de la science que tu n'as pas. Elle a dit à ça à Salomon. Je suis venu d'un peuple qui s'appelle Saba avec la nouvelle, avec une nouvelle certes. C'est-à-dire, l'oiseau avait parcouru 400 km presque de Yémen, où se trouve Saba, ça, c'est-à-dire le peuple Saba, jusqu'à Salomon, en Palestine. Excusez-moi, oui, 1400 ou 1500 km. Et elle sait que Lupe, il avait une nouvelle que Suleiman ne connaissait pas. Alors tout le monde, alors de cette phrase de l'oiseau, on sait que le royaume de Salomon s'est étendu jusqu'au Yémen, en bas. Alors c'est-à-dire sur toute la péninsule arabe et aussi, et Palestine aussi, les pays de Cham. Regardez, les gens, quelquefois, sont donnés la science sans qu'ils reçoivent la révélation. Alors seulement, c'est un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Muhammad et Salomon, les deux ne connaissent pas l'invisible ou l'inconnu. Mais Muhammad alayhi salatu wa salam, Allah lui a dit dans le Coran, « Dis-leur, si je connaissais l'invisible, j'aurais épousé de tout ce qu'il y a de bien pour moi. » Alors on revient à lui, il a dit, « Je suis alors allé à Saba et j'ai vu alors un peuple qui est gouverné par une femme. » Maintenant c'est le rapport qu'elle donne à Salomon. Elle a dit une femme qui avait un trône gigantesque et elle était donnée tout ce qu'il faut. Alors ça, c'est-à-dire c'est la femme qui règne. Là-dessus, il a dit, c'est-à-dire elle était donnée tous les moyens qu'un roi alors est donné. lui peut être étonné de son tronc qui avait un tronc grandiose. Et bien sûr, Yaman ou Saba, à l'époque, il y avait deux presque paradis, des jardins immenses. Les exégètes disent, lorsque la femme à l'époque à Yémen, à Saba, lorsque la femme voulait cueillir les fruits et l'antre, alors avec le panier sur sa tête, alors elle marche sans cueillir et en sortant de jardin, il aura beaucoup, alors beaucoup de fruits qui tombaient dans le panier. Et il y a aussi les ruisseaux qui circulaient sous cette terre-là. Il y avait tout ce qu'il y a de verdure, de l'eau. Regardez, l'huppe, il n'a pas parlé des autres huppes, il a parlé des êtres humains. Et l'huppe, il était étonné, il a dit, cette femme qui est la reine et l'adorée avec son peuple, le soleil. Regardez comment. L'huppe, alors, c'est pour l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'abord, elle était étonnée que ce peuple-là adore le soleil dans la mesure où un peuple adore autre chose en dehors d'Allah, c'est-à-dire s'il y a une violation de la loi divine. Comment on adore le soleil sans adorer celui qui avait créé le soleil, celui qui est le maître du soleil? Et bien sûr, comme nous savons, la lune, le soleil, tout ce qu'il y a de phénomène naturel était adoré par des peuples. Et c'est pour cela, nous, en tant que musulmans, nous sommes interdits de faire la prière dans deux moments. Le moment de lever de soleil et le moment de coucher de soleil. Il y a d'autres temps aussi, comme l'heure de zénith, mais... Il a dit, lorsque le soleil se lève, il aura... Il se lève entre deux cornes de Satan, et c'est à ce moment-là que les incrédules, les hommes ingrats, faisaient leur prière. C'est pour cela qu'il ne faut pas que tu fasses les prosternations, toi en tant que musulman, parce que ça c'est le moment qui est interdit par le prophète, alayhi salatu wassalam. Et lorsque le soleil se couche, ils se sont prosternés pour dire au revoir au soleil. Et c'est pour cela que nous sommes interdits de nous prosterner pendant ces heures-là. Et c'est pour celui qui vient 5 minutes avant la prière de Maghreb, il ne doit pas faire la prière, sauf si elle doit s'acquitter de la prière d'institution divine. C'est-à-dire, en concernant tout cela, ça concerne la prière surrogatoire. Il n'y a pas de nafila, de prière surrogatoire au coucher de soleil ou au lever de soleil. On revient à l'histoire de Saba. Alors, l'huppe, elle a dit, c'est un peuple, et elle, cette reine-là, elle adorait le soleil, et elle a dit, ils adorent le soleil, mais ils ne se prosternent pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'il était étonné. Bien sûr, Solomon qui avait le langage de l'huppe, il avait compris tout ce qu'il avait dit. Car l'huppe, les oiseaux, les autres animaux, les montagnes et les pierres se prosternent pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran, tout ce qu'il y a sur terre, dans les cieux, entre les deux, ils se prosternent pour Allah subhanahu wa ta'ala, inclut aussi les animaux, toutes créatures. Et c'est pour cela l'huppe était étonné. Il était étonné qu'il n'adorait pas Allah, celui qui a le destin de toutes choses. Pour l'huppe, qu'est-ce qu'il mange? Il mange les graines de céréales. Il a dit, comment ça se fait que ces gens-là n'adorent pas Allah, qui sortent même les graines de leur lieu où ils sont cachés, c'est-à-dire... Il donne aussi, il fait tomber l'eau sur terre pour que les plantes poussent. Alors regardez, lui, il connaît exactement les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'oublie jamais les bénédictions qui lui sont données par Allah subhanahu wa ta'ala. Comme nous savons, les oiseaux, ils ne sont pas comme nous, ils mangent les graines. Regardez, lui reconnaît tout cela, tandis que nous, en tant qu'être humain, nous sommes préparés à des autres. Nous avons les habits, non pas les habits. Nous avons mille genres de choses à manger, ils n'ont que la graine. Regardez, il y a des choses dont nous nous réjouissons chaque jour, nous mangeons. Non. Et pourtant, alors celui qui reconnaît tout cela, tandis que c'est rien par rapport à ce qu'Allah avait donné à l'homme. Il a dit, alors lui toujours contenu, ils adorent en dehors d'Allah, tandis qu'Allah alors nous donne les graines, et celui qui a les cieux et la terre, alors tout le royaume lui appartient. Et qu'est-ce qu'il a dit justement pour évoquer l'aspect de sa majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala? Le prophète alayhi salatu wa sallam est passé chez un homme qui était en train de fouetter son esclave. Alors c'est l'homme qui rapporte, il a dit, j'ai entendu quelqu'un derrière moi, c'est celui qui avait fouetté l'esclave. Et il a dit, lorsque j'ai regardé, c'était le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète lui dit, que tu saches Abu Mas'oud, alors que tu saches qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a la force sur toi plus que la force que tu as envers cet esclave. On doit se rappeler toujours qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut infliger de dégâts que tu ne peux pas même infliger à un esclave. C'est pour cela, s'il y a des oppresseurs, on doit se rappeler qu'il y a un Dieu qui est plus grand que lui, qui est majestueux et qui peut lui faire beaucoup de mal. Regardez. Regardez la justice dans les phrases que lui avait prononcées. Alors seulement après ce rapport-là, il a dit, nous allons vérifier si tu es véridique ou non. En s'adressant à lui. Il n'a pas alors prononcé un jugement. Alors seulement il a dit, on va vérifier. Nous allons continuer demain pour ne pas être long, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le bon chemin. Amin. Ô Dieu, que nous te remercions comme il faut. Ô Dieu, que tu nous donnes sur le bon chemin, que tu nous donnes la guidance sur le bon chemin, le droit chemin. Ô Dieu, que nous soyons au nombre de ceux-ci qui te remercient pour toutes les bénédictions. Ô Dieu, que tu nous donnes tes vertus. Ô Dieu, que tu nous fasses miséricorde, que tu nous donnes les bénédictions. Ô Dieu, nous te demandons de nous donner alors les biens dans cette vie de ce bas monde, dans la vie, dans l'au-delà, et que nous soyons au nombre de ceux-ci qui font les bonnes œuvres, que tu bénisses le reste de Ramadan. Ô Dieu, que tu bénisses nos actes pendant le mois de Ramadan. Ô Dieu, que l'avenir pendant le mois de Ramadan sera mieux que le passé. Ô Dieu, que tu nous protèges contre le feu de la fournaise. Que nous soyons pendant ce mois-là, parmi les serviteurs que tu demandes. Et tu exauces nos demandes. Ô Dieu, que tu nous donnes la capacité de jeûner et de faire la prière. Et la prière surrogatoire de la nuit, comme il faut, que nous soyons désobéissons envers toi. Ô Dieu, que tu nous pardonnes nos fautes et que tu pardonnes nos excès. Ô Dieu, que tu nous donnes la bonne conclusion et que tu nous protèges contre alors le châtiment dans cette vie de ces bas mondes et dans la vie dans l'au-delà. Beaucoup de bénédictions du salut sur le prophète. Allez, salam. Voilà, c'est là.